podcasts de Radio Vatican.
Un an après les élections législatives de 2016, les Irlandais du Nord retournent dans les bureaux de vote ce jeudi 2 mars. La plus petite des régions autonomes du Royaume-Uni n'a plus de gouvernement depuis le mois de janvier. La coalition entre les nationalistes du Sinn Féin et les unionistes du DUP, le Parti unioniste démocratique, a éclaté. En cause, le refus de la première ministre, Arlene Foster, la dirigeante du DUP, de démissionner. Et ce, alors qu'elle est au cœur d'une enquête sur un programme de subvention pour développer les énergies renouvelables. Le leader de l'autre camp, Martin McGuinness, a donc annoncé sa démission. Or, si un camp de la coalition quitte le gouvernement, automatiquement, l'autre camp doit démissionner. Christophe Gillissen est professeur de civilisation irlandaise à l'université de Caen en Normandie. Il revient sur la crise politique récente en Irlande du Nord et sur les enjeux de ces élections.
Ce gouvernement a été formé selon les dispositions des accords de paix de 1998. Et le cœur des accords de paix, c'est qu'il faut que le gouvernement inclue des représentants de la communauté nationaliste, catholique, et des représentants de la communauté unioniste ou protestante, c'est-à-dire qu'ils doivent gouverner ensemble. C'est la base. Si cette condition-là n'est pas respectée, il n'y a pas de gouvernement. Donc là, on avait un gouvernement intercommunautaire qui fonctionnait bien, a priori, hein, avec donc le DUP, le parti protestant majoritaire, mené par Arlene Foster, et de l'autre côté, donc, le parti Sinn Féin, un parti nationaliste, et donc mené par Martin McGuinness, qui était donc le vice-premier ministre. Ça fonctionnait plutôt bien, mais Arlene Foster a été impliquée dans un scandale, une affaire, on va dire, parce qu'avant de devenir premier ministre, elle était ministre, et à ce titre, elle avait supervisé, piloté la mise en place d'un projet d'encouragement aux énergies renouvelables, donc avec des incitations fiscales à la clé. Ce système a montré ses limites assez rapidement parce qu'il s'est avéré que c'est devenu un véritable gouffre pour l'argent public. Et donc, elle a pris connaissance hein, de ces problèmes, mais elle a refusé de les reconnaître. Au bout d'un moment, la pression est devenue trop forte. C'est-à-dire que Martin McGuinness, en tant que vice-premier ministre, cherchait avant tout à maintenir la stabilité politique. Mais au bout d'un moment, il s'aperçut que s'il restait en poste, cela revenait à cautionner les pratiques de son premier ministre. Et au bout d'un moment, ce n'était plus possible politiquement. Donc, il a décidé de démissionner et par là même, c'est la fin du gouvernement. Puisqu'il n'y a plus cette coalition entre nationalistes et unionistes.
Vous nous avez dit que cette coalition fonctionnait sinon plutôt bien.
Oui.
C'était pas révélateur d'une crise plus profonde, cet épisode?
Oh, alors, il y a d'autres considérations. Hein, que, par exemple, McGuinness n'est plus tout jeune. Il a quelques problèmes de santé, enfin des problèmes même assez importants. Il y a des tensions hein, en Irlande du Nord. Il y a un système politique qui fonctionnait plutôt bien. Mais de toute évidence, il y a encore des rivalités entre les deux communautés. Il y a des tensions. Mais disons, les institutions, en tout cas, étaient relativement stables et fonctionnaient plutôt bien.
Si ce sont les deux mêmes partis qui sortent vainqueurs des élections, est-ce qu'il n'y a pas un risque de blocage institutionnel?
Ah ben complètement, complètement. C'est-à-dire que en démissionnant, McGuinness pensait sans doute forcer la démission d'Arlene Foster. Or, elle refuse de démissionner. Et donc, on va se retrouver exactement dans la même situation avec, simplement, au lieu de Martin McGuinness, on aura Michelle O'Neill, mais elle ne pourra pas accepter de cautionner Arlene Foster. C'est-à-dire qu'elle est toujours empêtrée dans cette affaire, il y a toujours ces accusations contre elle. Et donc, on va se retrouver, à mon avis, de manière très probable, face à un nouveau blocage, tout à fait. La seule issue, à vrai dire, serait si Arlene Foster acceptait de démissionner. Mais pour l'instant, elle s'y refuse.
Et donc, si elle s'y refuse, que se passera-t-il si aucun gouvernement n'est formé?
Alors, si aucun gouvernement n'est formé, l'Irlande du Nord continuera à exister en étant pilotée depuis Londres, puisqu'il y a un ministère et un ministre des Affaires nord-irlandaises au gouvernement central de Londres. Donc l'administration poursuivra son travail pour gérer les affaires courantes en tout cas, mais ça veut dire que ça va peser très lourd sur des gens comme Arlene Foster parce que priver l'Irlande du Nord de ses institutions, etc., c'est tout sauf anodin. Et la pression, à mon avis, deviendra vite très inconfortable.
L'Irlande du Nord est très divisée sur la question du Brexit. Quelle influence peut avoir ce sujet dans l'élection? Est-ce qu'il a beaucoup pesé dans la campagne?
Non, pas plus que ça. C'est-à-dire que, effectivement, hein, une majorité des électeurs en Irlande du Nord ont voté contre le Brexit, 56% à peu près. La question n'est pas directement liée à ces élections, puisque suite au référendum, c'est le gouvernement britannique, le gouvernement central, qui met en œuvre le Brexit, hein, qui va bientôt activer l'article 50 et lancer les négociations. Il y a eu des tentatives de la part de Nord-Irlandais en particulier, hein, de demander un droit de citer, c'est-à-dire le droit de participer à ces négociations, de se faire entendre. Et ils ont donc soumis cette requête à la haute cour en Irlande du Nord, et puis ça a été examiné également par la Cour suprême à Londres. Mais la Cour suprême a décidé qu'ils n'avaient pas forcément droit de citer. C'est-à-dire que le jugement de la Cour suprême a obligé le Premier ministre à consulter le Parlement de Westminster, hein, le Parlement central, mais les assemblées régionales, elles, n'auront pas voix au chapitre. Alors pendant la campagne, l'Europe divise un peu les différentes formations politiques, c'est-à-dire que le DUP, donc le parti d'Arlene Foster, le parti majoritaire, est favorable au Brexit. Le Sinn Féin, lui, ne l'est pas, mais ce n'est pas là-dessus que se joue l'élection, à vrai dire.
Quels ont été les sujets principaux de cette campagne pour ces élections du jeudi 2 mars ?
Ça n'a pas été une campagne très intéressante sur le fond, parce qu'il y a eu des élections il y a un an seulement, en 2016. Et donc, ce sont à peu près les mêmes qui se représentent. Et donc, c'est davantage une question de personne et une question de confiance maintenue ou non. Parce qu'il faut comprendre que la plupart des électeurs protestants votent pour le DUP ou éventuellement pour un autre parti protestant. Ils ne voteront jamais pour le Sinn Féin. Et de même, du côté nationaliste ou catholique, les électeurs votent pour le Sinn Féin, hein, ils ne voteront jamais pour le parti unioniste. Donc, l'idée, ce n'est pas vraiment de convaincre les électeurs de l'autre communauté de voter pour soi, c'est surtout de rallier ses propres troupes et de s'assurer que les électeurs seront là. Alors, d'après les différents sondages, on s'aperçoit qu'il n'y aura sans doute pas de changement majeur. En l'espace d'un an, il y a eu ce que les sondages laissent apparaître, c'est quand même une érosion du vote pour le DUP. C'est-à-dire que cette histoire affecte la crédibilité du dirigeant du DUP, Arlene Foster, hein, qui s'accroche au pouvoir, mais sans doute au prix d'un certain discrédit, ou en tout cas au prix d'une certaine perte de popularité. Mais c'est surtout sur une question de personnes, est-ce qu'elles doivent être reconduites, maintenues dans leurs fonctions ou non.
Des propos recueillis par Sarah Bakaloglou.